Daniel Tondu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Gestion 21. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Comment vous regardez, on est encore quelques jours après la rentrée pour les investisseurs. Comment vous regardez ces marchés en termes de valorisation, marché européen, marché français, comment vous les voyez aujourd'hui?
Ça fait déjà un petit moment que nous, on pense que les marchés ne sont pas particulièrement bradés. En tant que gérant value, on est toujours attentif à regarder la valeur des choses et à être confortable avec les niveaux de côté. On a l'habitude, nous, de segmenter la cote en plusieurs catégories. Si vous voulez, des valeurs emblématiques, des grandes valeurs emblématiques de la cote, des belles entreprises de croissance qui vont sur l'international, qui ont des bons bilans, des bons produits et qui sont bien gérées. Ces valeurs-là sont très difficiles à acheter pour un gérant value parce qu'elles nous semblent trop chères. Hein, donc les exemples, c'est Sodexo, Air Liquide, Essilor. Et donc ces valeurs-là, c'est très difficile pour un gérant value de les mettre en portefeuille. C'est belles entreprises pour
Oui,
autant.
et qui ont fait un parcours
Et qui
au
ont fait
cours
un
des
très beau
dernières
parcours.
années, très beau parcours
Enfin, qui ont
boursier.
fait un très beau parcours. Mais aller piocher et faire un portefeuille value avec ces valeurs-là, c'est très difficile. Alors à l'opposé, vous avez des valeurs cycliques traditionnelles, donc qui sont dans le cycle. Hein. Alors on croit ou pas au cycle, hein, les matériaux, les banques. L'automobile, donc à ce moment-là, qui sont plutôt à leur prix, hein, qui ne sont pas particulièrement ni chers ni bradés, mais qui sont dans une valorisation de cycle qu'on peut jouer, qu'on peut apprécier les uns ou les autres, on va dire. Hein. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Puis il y a une troisième catégorie, je dirais, qui est particulièrement pas chère. Ce qui fait qu'il y a un ensemble global du marché qui semble peut-être pas cher visuellement, mais l'illusion, c'est que tout ceci est expliqué parce qu'il y a quand même tout un lot de valeurs qui sont vraiment pas chères, qui sont presque à la ramasse, on pourrait dire. Mais les raisons fondamentales, alors dedans, vous avez quoi? Les banques, l'automobile, les utilities, les télécoms, etc. Ces secteurs-là sont très attractifs. Gérant value va se dire, je les mets, je me goinfre sur ces valeurs-là. Je pense que ce serait une erreur parce que ces valeurs ne sont pas chères parce que elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes existentiels. Pour certaines d'entre elles, on ne sait pas si elles seront encore là dans 3 ans.
Donc
Hein,
on
et je
retrouve
pense,
des sujets de
voilà, des
réglementation.
sujets de réglementation, des sujets d'intervention des États, des sujets de bilan, des sujets de métier même. Hein, je pense à l'automobile, par exemple, où il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis 10 ans sur ce secteur, entre les équipementiers, les constructeurs. Et donc, voilà. Donc c'est difficile pour un gérant value aussi d'aller les yeux fermés sur ce type de valeur. Il faut vraiment qu'il fasse son marché, qu'il aille faire du stock picking. Et les trois catégories, je pense, sont possibles à mettre dans un portefeuille value. Plus difficilement les valeurs très chères, bien sûr, mais il y a un travail d'analyse point par point, valeur par valeur qui doit primer.
Alors, sur certaines valeurs, notamment les valeurs de croissance qui ont été, on peut dire, largement jouées par beaucoup d'investisseurs, on avait souvent la mise en avant de groupes internationaux qui profitaient du boom des marchés émergents. Et puis, on pourrait dire qu'en début de rentrée, on a parlé des pays émergents de manière plus négative, même si les gens estiment qu'il y a toujours un potentiel important, bien entendu, sur ces pays émergents. Est-ce que ça va peut-être donner sur certaines valeurs des opportunités ou pas?
Ben, je l'espère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une autre raison supplémentaire pour être prudent sur ces valeurs aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il faut être un petit peu patient. On est encore probablement qu'au début d'une correction sur les sujets émergents. Voilà, les difficultés des pays sur leurs finances, leurs comptes extérieurs sont là et je pense vont durer encore.
Donc on va suivre ce que disent les entreprises, puisqu'on les a vus beaucoup communiquer au cours des dernières années sur cette croissance des pays émergents, peut-être un peu moins dans cette période où ils vont peut-être plus parler de l'Europe
Bien
d'ailleurs,
sûr.
peut-être à ce moment-là.
Exactement. L'Europe va peut-être être un marché qu'on va redécouvrir.
Est-ce que vous avez parlé de ces trois types de valeurs? Est-ce que les small, mid, il y en a, bon, là-dedans, c'est un univers assez vaste, hein, mais il y a des valeurs aussi qui, selon vous, parliez de value, présentent de l'intérêt?
Bien sûr. Dans les small et les mid cap, il y a toujours de l'intérêt, il y a toujours des dossiers. Des belles entreprises, des projets qui sont attractifs, des valorisations qui sont attractives. C'est toujours un peu plus compliqué aussi parce que c'est parfois sur des marchés concentrés. Donc si ça dérape, l'entreprise peut être mise à mal. Donc là, c'est vraiment le métier de l'analyste, essayer de trouver des idées qui soient satisfaisantes et pérennes. pour investir?
On est quasiment 5 ans après la faillite de Lehman Brothers, et on pourrait dire que cette crise a quand même changé la vision peut-être qu'on avait des marchés. Pour le gérant que vous êtes, est-ce que ça a changé, même si vous parlez de value, l'approche que vous pouvez avoir, puisqu'on parlait de ces petites valeurs, les questions de liquidité, on a vu ça effectivement au pire moment de la crise, des investisseurs sortir brutalement, on va dire, sans distinction hein, de valeur.
Sur ce sujet, liquidité est centrale, je crois, aujourd'hui pour beaucoup de gérants. La précaution, c'est aussi la taille des actifs gérés par rapport aux sociétés adressables. À partir du moment où vous gérez plusieurs centaines de millions d'euros, évidemment, il faut être prudent sur la nature des entreprises dans lesquelles vous investissez. Voilà, donc ça, c'est une prudence, je crois, qui est bien ancrée pour tous les investisseurs aujourd'hui.
Autre côté que vous gérez aussi, c'est la partie immobilier coté. On pourrait dire qu'il y a eu une belle période d'engouement. Un doute, justement, pendant cette crise où on s'est dit, oh là là, ces valeurs immobilières, l'endettement, on a regardé ça très différemment. Et puis, à nouveau, peut-être de l'intérêt, côté un peu pierre-papier, à
Oui,
nouveau.
alors aujourd'hui le secteur est dans une situation un petit peu paradoxale, dans le sens où c'est un secteur où il n'y a pas de croissance, pas de décroissance et des rendements élevés. Est-ce que c'est suffisant pour attirer les investisseurs? La réponse est non. Les investisseurs ne sont pas revenus sur ce secteur. Aujourd'hui, c'est un secteur pour 2013, par exemple, qui fait une performance de zéro, donc comme les obligations, et donc qui offre des rendements de 6% pour autant, mais qui n'attire pas encore les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a cette image, secteur basé sur les obligations, raisonnement par rapport aux obligations, les taux obligataires vont monter, donc le secteur va peut-être en souffrir, etc. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a un spread de rendement considérable entre ce secteur et les obligations, ce qui fait qu'il y a une marge d'absorption d'une hausse des taux, même importante. Et pour autant, en rentrant aujourd'hui sur ce secteur, vous avez un portage positif dès le premier jour, puisque vous êtes à 6% de rendement. Donc on pense qu'il y a vraiment un intérêt à aller sur le secteur de l'immobilier coté aujourd'hui, et qui est une valeur de rendement par excellence.
Là, il y a des valeurs en particulier, parce qu'on pourrait dire qu'il y a par exemple, des grandes foncières, des grosses foncières, quasiment de taille européenne, et puis encore des petits acteurs.
Oui, alors il y a des écarts très importants entre valeurs. C'est une chose assez nouvelle. Jusqu'ici, soit le secteur était tout en surcote ou tout en décote, mais assez homogène. Et là, il y a des écarts, les petites valeurs sont assez maltraitées. D'où l'intérêt d'une gestion de spécialistes sur ce secteur. Voilà ce qu'on prétend offrir. Les grandes valeurs étant beaucoup plus attractives pour les investisseurs diversifiés, hein, qui vont chercher l'Unibail ou du Klépierre ou de l'ICAD beaucoup plus facilement.
En conclusion, peut-être donc l'investisseur qui fait du stock picking aujourd'hui, malgré peut-être les soubresauts qu'on va avoir, c'est toujours difficile à mesurer par rapport à ce que fera la Réserve fédérale américaine et l'impact que ça aura sur les marchés, mais il va, de votre point de vue, avoir des opportunités pour investir en actions?
Oui, les opportunités sont là. On le voit bien au moment de toutes les publications. Si on prend les semestriels dont on est quasiment en train de sortir, il y a eu des mouvements assez importants. Le marché a bien perçu, mais il y a eu des mouvements à la hausse et à la baisse assez importants pour des raisons propres à chaque entreprise. Et donc c'est à chaque fois de bien regarder chaque entreprise et d'être, je dirais, entre guillemets, confortable avec une idée d'investissement à moyen terme sur le projet de l'entreprise, sur sa stratégie, son bilan, ses dirigeants, et de se projeter à 2-3 ans pour investir avec confort, on va dire.
Merci Daniel Tondu d'avoir fait le point avec nous. Donc on rappelle que vous êtes gérant chez Gestion 21.
Merci.